Vous écoutez
RMC.
Mardi 9 août.
L'info sur RMC.
Soyez tous les bienvenus sur RMC. Il est 8h du matin. Tout de suite, le journal avec Stéphane Genestre. Bonjour Stéphane.
Rebonjour Sébastien. Bonjour à toutes et à tous. 700 hectares de végétation détruits en Aveyron. 1200 personnes évacuées. Alors que la sécheresse continue de frapper le pays. C'était le 9 août 1982, l'attentat de la rue des Rosiers à Paris. Et 40 ans après, toujours pas de procès. Et puis c'est un retour qui ravira tous les chanteurs, danseurs et amoureux de karaoké. Celui de Britney Spears, un duo avec Elton John.
On va commencer avec ce témoignage RMC. Une belle histoire, une famille sauvée de la noyade grâce au sang-froid d'un garçon de 12 ans. Ça s'est passé à Biarritz.
Il s'appelle Julien et alors qu'il est sur la plage dimanche, il entend les appels à l'aide de 5 personnes en détresse. Julien ne réfléchit pas, il n'écoute que son courage, il se dirige vers eux. Comme quoi, tous les héros ne portent pas de cap et un maillot de bain suffit, Amandine Réau.
Fan de bodyboard, Julien passe ses journées dans l'eau chaque été à Biarritz. Dimanche soir, il nage tranquillement sur sa planche quand soudain, il entend des appels à l'aide.
Au début, je pensais que c'était une blague et au fil que je me rapprochais, je voyais qu'ils étaient en danger.
3 personnes sont accrochées au rocher, une mère de famille avec son neveu et sa nièce, tous les deux malentendants. 2 autres sont dans l'eau, en détresse, un enfant de 6 ans et son père qui a les jambes engourdies. C'est eux que Julien ramène sur sa planche.
C'était un peu mouvementé dans ma tête parce que je savais pas trop comment gérer ça, mais au final, c'est bien passé.
Et ça s'est bien passé parce que Julien vient de terminer un stage de sauvetage côtier, un hasard de calendrier.
On a appris à ramener les gens dans l'eau qui est en train de se noyer, on va dire. Du coup, j'ai appliqué cette technique. En attendant les sauveteurs, je les ai ramenés le plus que je pouvais. Vu qu'il y avait énormément de courant, il y avait la planche qui était reliée à une corde. Et on était 6 à se relayer pour les tirer, du coup.
La famille, ses parents, mais aussi les maîtres nageurs, tout le monde félicite et remercie Julien.
À la fin, la famille est sortie de l'eau et ils m'ont remercié, ils m'ont pris dans ses bras et voilà, ils étaient très contents et je pense qu'ils se sont fait très peur.
Hier, la famille a retrouvé le numéro de Julien pour le remercier encore une fois. L'adolescent en est plus certain que jamais. Son premier job d'été, ça sera maître nageur.
Et voilà, un joli témoignage RMC signé Amandine Réo.
Ouais, très belle histoire, bravo à lui. Il est 8h02 sur RMC. L'actualité de ce mardi, c'est encore et toujours la sécheresse et les feux de forêt.
Un important incendie qui est toujours en cours en Aveyron. Le feu n'est pas encore fixé. 700 hectares sont partis en fumée. 1200 personnes ont dû être évacuées toute la nuit. La sécheresse n'arrange évidemment pas les choses. Et on s'arrête ce matin en Dordogne, où les exploitants agricoles craignent le pire pour leurs bêtes et leurs parcelles à cause de l'encadrement de leur consommation d'eau. Ils vont d'ailleurs manifester tout à l'heure à Périgueux, les agriculteurs qui dénoncent des restrictions abusives qui entravent la pratique de leur métier. Le reportage d'Émeric Dantreuil avec les équipes de BFM TV.
Allez, venez ! Allez !
Au milieu de ces vaches laitières, Vincent Cascales est inquiet. Depuis plus d'une semaine, il a interdiction totale d'arroser ses 30 hectares de maïs qui servent habituellement à nourrir ses bêtes.
Je suis à 70-80% de perte. Qu'on a beaucoup moins de nourriture pour les bêtes, elles souffrent.
L'exploitant agricole ne comprend pas les restrictions. Il est même prêt à ne plus les respecter si la situation continue.
Nous, il y a encore de l'eau dans la rivière, mais comme ils ont relevé les seuils, eh bien, on ne peut plus irriguer. Alors qu'il y a des années, on a eu irrigué qu'il y avait beaucoup moins d'eau. Quand vous voyez du maïs comme ça, c'est désolant, quoi.
À quelques kilomètres, Patrice Brachet est lui aussi dans la passe.
Si on me prive d'eau, c'est la faillite. Point final.
Pour lui, c'est toujours la même chose. Face à la sécheresse, ce sont les agriculteurs qui sont visés en premier.
De toute façon, l'agriculteur, aujourd'hui, c'est la personne à abattre. On doit tourner à peu près à 80 heures par semaine. On est fatigué par la chaleur. On a nos animaux qui souffrent. On nous stigmatise toute la journée, mais on ne peut plus.
Ces restrictions sont pourtant nécessaires, assure Johan Blondel, le sous-préfet de la Dordogne. Et elles concernent aussi bien les agriculteurs que les particuliers.
Ce qui est inédit, c'est l'avance que l'on a sur le calendrier habituel. On est avec un mois d'avance sur des situations de sécheresse.
Et le sous-préfet l'assure, dès que la situation le permettra, de nouvelles concertations auront lieu avec les agriculteurs.
La stratégie offensive de Gérald Darmanin pour lutter contre les rodéos urbains. Le ministre de l'Intérieur qui table sur 10 000 contrôles de police rien que pour le mois d'août pour lutter contre ce fléau. Le suspect impliqué dans le rodéo de Pontoise ce week-end a d'ailleurs été mis en examen et placé en détention provisoire.
C'était le 9 août 1982, il y a 40 ans, jour pour jour, un commando ouvrait le feu dans un restaurant cachère du centre de Paris.
L'attaque de la rue des Rosiers qui a fait 6 morts et 22 blessés. Un triste anniversaire aujourd'hui avec un premier hommage national en présence du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. Ce qui était attendu par les proches des victimes de l'attentat, Maxime Lévy.
Un premier hommage national, 40 ans après l'attentat, Natacha Goldenberg n'y croyait plus.
Il n'y en a pas eu pour les 30 ans, il n'y en a pas eu pour les 20 ans, il a fallu attendre 40 ans, c'est même pas que ce serait réalisable. Et je pensais que ça les intéressait toujours pas.
Une cérémonie officielle rue des Rosiers, là où se trouvait le restaurant de son grand-oncle attaqué en 1982 par un commando terroriste 40 ans plus tard. Il ne reste plus que les mosaïques et son nom, Goldenberg, écrit sur la façade.
C'est un devoir de mémoire. Il y a un côté émotionnel personnel qui me renvoie évidemment à mon grand-oncle, à mon père, et qui est important pour moi aujourd'hui. Et cet hommage national, c'est un hommage national pour eux, avant toute chose.
Mais cet hommage n'est qu'une première étape pour Natacha. 40 ans d'attente et toujours aucun procès en vue. Si un des suspects a pu être extradé de Norvège en 2020, il en reste encore 3.
Vu les circonstances, ça me paraît difficile. Mais je veux garder l'espoir qu'enfin la diplomatie aussi va se bouger et faire extrader les 3 autres commanditaires de l'attentat. On sait où ils sont, on sait qui ils sont. Ça serait bien qu'ils soient jugés en France.
Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice avait estimé il y a une semaine que le suspect localisé en territoire palestinien était inextradable.
Les précisions de Maxime Lévy du service police-justice de RMC. L'information est à la une de tous les sites d'information américains. La résidence de Donald Trump perquisitionnée cette nuit par le FBI. C'est l'ancien président des États-Unis qui l'a lui-même annoncé. Il dénonce une persécution politique.
Il est 8h05 sur RMC. 5 mois après le début de la guerre en Ukraine, le seuil des 100 000 réfugiés ukrainiens arrivés en France, ce seuil a été dépassé.
Et parmi eux, 18 000 enfants qui sont scolarisés dans le pays, et cela à un mois de la rentrée. Alors comment vivent-ils cette installation ? Estelle Henry est allée à Antuniac dans l'Aude, où la maison de l'ancien instituteur du village a été rénovée pour accueillir une famille ukrainienne.
C'est une simple fleur, mais qui a une très grande valeur aux yeux de Nina.
Cette fleur me rappelle l'Ukraine, nous en avions là-bas. Et quand j'ai appris qu'on pouvait trouver des graines, on a décidé qu'on allait en faire pousser ici, chez nous. Ce sera notre petit coin d'Ukraine.
Car désormais, c'est dans ce village qui les a accueillis il y a un mois que la famille de Nina veut vivre pour tourner la page. Et ça commence par la rentrée de septembre au collège. Papy a 12 ans et très impatiente.
Oui, je vais faire la rentrée. Apprendre, ça me plaît. Et puis la langue française, même si elle est un peu difficile, me plaît aussi.
Une rentrée et des achats de fournitures scolaires qu'il va falloir financer. Un nouveau combat à mener pour la commune. Florence Roux, conseillère municipale.
On nous a autorisé à prendre des réfugiés et en fait, les aides ne sont pas là. On les accueille, on fait tout pour qu'ils soient bien, pour qu'ils aient à manger, qu'ils aient de quoi se laver. Et au final, on s'aperçoit qu'on est, on est laissé de côté. On se retrouve à essayer de pallier tous les manques.
La commune d'Antuniac qui n'exclut pas de lancer un nouvel appel à la solidarité pour pouvoir acheter des fournitures aux enfants.
Voilà, 100 000 réfugiés ukrainiens en France. Quel avenir pour ces déplacés alors que la guerre dure en Ukraine? Comment mieux les accompagner, mieux les intégrer? À 8h40, on en parlera longuement avec Didier Lesky. Il dirige l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il sera donc mon invité dans une petite demi-heure sur RMC.
L'inquiétude du secteur de la petite enfance. D'après un arrêté publié jeudi dernier au journal officiel, les crèches pourront dès la fin du mois recruter des personnes qui ne présentent pas toutes les qualifications nécessaires pour occuper un poste dans un de ces établissements. Et puis du sport, dernière chance pour l'AS Monaco de poursuivre en Ligue des Champions. Les Monégasques qui se déplacent sur la pelouse du PSV Eindhoven ce soir pour le match retour du troisième tour des qualifications pour les barrages de la Ligue des Champions. À l'aller, les deux équipes s'étaient quittées sur un nul un partout. Le coup d'envoi, il est à 20h30 et ce sera évidemment à suivre en direct toute la soirée sur RMC.
On termine ce journal avec un retour. Elle avait disparu de la scène musicale depuis des années. Le retour de Britney Spears et en duo.
Après des duos avec Madonna, Pharrell Williams ou encore Will.i.am. Oops, she did it again. Et oui, Britney Spears revient, mais pas avec n'importe qui. Avec Elton John, Angèle Châtelier.
Et oui, c'est en tout cas ce qui est prévu, mais nous n'avons pas encore d'extrait malheureusement à vous faire écouter. Seulement quelques informations au compte-gouttes. Déjà, le nom de cette chanson, Hold Me Closer, tiens-moi plus près. Une chanson inspirée des paroles de Tiny Dancer, tube d'Elton John. Nous n'avons pas non plus de date de sortie, mais c'est la première fois que Britney Spears reviendra après avoir été libérée de la tutelle de son père, ce qui avait fait beaucoup de bruit. Elton John, lui, a récemment fêté ses 75 ans, toujours sur scène. Il était notamment en juin dernier à la Défense Arena en France, face à 40 000 spectateurs.
Merci. On a hâte de savoir ce que ça peut donner. Ouais. Britney Spears et Elton John. Sorti dans combien de temps ? On ne sait pas.
On ne sait pas grand-chose.
Suspense. Merci Angèle. Eh bien, on a hâte. Merci beaucoup Angèle Châtelier. Un petit dernier mot puisque on a appris cette nuit la mort d'Olivia Newton-John, la chanteuse, actrice américaine, star de la comédie musicale Grease, s'est éteinte à l'âge de 73 ans. C'était le journal de Stéphane Jeunesse sur RMC. Il est 8h09.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
À suivre le débat du jour sur RMC. Faut-il vraiment faciliter le recrutement de personnel sans diplôme en crèche? On va en parler tous ensemble au 32-16. Face à vous, le co-secrétaire général du syndicat national des professionnels de la petite enfance, Cyril Godefroy. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Et d'ores et déjà, jolies vos réactions sur Direct Studio. On a choisi donc de parler de ce problème des crèches ce matin parce que le gouvernement veut les autoriser à recruter des personnes non diplômées pour faire face aux pénuries de main-d'œuvre. On vous a posé la question, est-ce que vous êtes inquiet? Un diplôme ne vaut pas forcément dire être compétent, nous dit Stéphanie. Je suis persuadée qu'il y a plein de gens sans diplôme qui sont bien meilleurs que les autres, nous dit-elle. Romain, lui, est très inquiet. Déjà avec des diplômes, il y a des soucis. Il est impensable de laisser mes enfants dans les écoles, dans les crèches et qui emploient du personnel non qualifié. Et puis Alice témoigne aussi sur Direct Studio. Elle a un CAP petite enfance, tiens, depuis 2 ans, c'est intéressant. Je postule pour un CDI en vain, dit-elle. On me propose que des CDD de 20 heures, CDD d'un mois. Sans perspective, nous dit-elle, sans perspective d'embauche. Vous continuez à réagir et on vous attend surtout au 32-16, évidemment.
RMC au 32-16, 45 centimes la minute.
Ou par SMS au 732-16, 75 centimes par envoi, plus prix du SMS.
RMC, Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
8h14 sur RMC.
Face à vous.
32-16, nous parlons des crèches ce matin, les crèches menacées par la pénurie de personnel, au point que le gouvernement vient d'autoriser à recruter sans diplôme. Ça fait beaucoup réagir, beaucoup de messages et beaucoup d'appels au 32-16 ce matin. Est-ce que vous êtes inquiet pour vos enfants? Peut-on laisser son bébé à la crèche à des personnes non qualifiées qui ne sont ni puéricultrices ni assistantes maternelles? Les crèches, elles, disent qu'il n'y a pas le choix parce qu'il y a de très nombreux postes à pourvoir et sinon des places devront fermer. Alors on fait comment? Quasiment la moitié des crèches doivent faire face à des situations de manque de personnel. On en débat tous ensemble et pour échanger avec vous, j'accueille Cyril Godefroy. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bienvenue sur RMC. Vous êtes le co-secrétaire général du syndicat national des professionnels de la petite enfance. Vous allez nous dire ce que vous en pensez dans un instant. On va d'abord partir au 32-16, rejoindre Lucas. Bonjour Lucas.
Bonjour.
Ça va ce matin Lucas? Merci d'être sur RMC avec nous.
Merci, il n'y a pas de souci.
Vous avez des enfants Lucas?
Oui, j'ai un petit garçon de 2 ans.
Vous le faites garder comment?
Alors bah du coup moi j'ai la chance d'avoir avec ma femme on a eu la chance de trouver une nounou. Ouais. Une nounou qui est vraiment super. Et c'est vrai que bah déjà trouver une place dans une crèche, c'est un peu déjà le parcours du combattant, parce qu'au niveau des places ils sont limités quoi. Et si encore maintenant aujourd'hui on nous dit que
le personnel n'est pas diplômé,
moi je trouve ça tout simplement scandaleux, parce que au vu de l'actualité, on voit qu'il y a pas mal d'accidents, les enfants ils sont négligés, ils sont pas souvent changés, enfin ils sont un peu délaissés, un peu mis de côté.
Précisément donc, à cause du manque de personnel, c'est vrai que c'est ça aussi oui, qui engendre souvent des problèmes.
Bien sûr, mais du coup voilà, le gouvernement lui se permet de venir un peu mettre son nez dans cette affaire-là. Bon écoutez, ma foi, mais bon, après il arrivera encore d'autres accidents dans l'avenir et c'est là
Lucas,
encore où
Lucas, votre nounou, est-ce qu'elle a des diplômes?
Bien sûr, oui, elle est diplômée.
Vous avez pu les vérifier et c'est ce qui vous a rassuré?
Ah bah tout à fait. Puis moi, de toute façon, quand on était avec ma femme, on était à la recherche d'un mode de garde pour notre fils Gianni. Bah c'est vrai que de base, on s'était dirigé vers une crèche, donc c'était le parcours du combattant parce qu'au niveau des places, il était limité. Mais puis même moi, je savais que je serais mille fois plus rassuré depuis que mon fils est chez une nounou, quoi.
Ce qui est vrai que c'est quand on a un enfant en bas âge, j'imagine, Lucas, on a besoin d'être rassuré. C'est pas si évident, j'imagine, de le laisser.
Ah bah évident. Moi, je sais que mon fils, on l'a laissé, il avait 7 mois. C'est déjà un déchirement de laisser son propre enfant à d'autres personnes que nous, parents. Mais alors, du coup, si encore on n'a pas confiance en la personne à qui on le laisse, mais c'est même pas envisageable.
Mais est-ce que dans l'autre sens, on peut pas se dire, Lucas, que finalement, est-ce qu'il vaut mieux pas être plus nombreux pour encadrer ses enfants, même si dans l'équipe, il peut y en avoir un ou deux qui ne soient pas complètement formés ou qui soient en cours de formation. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux être plus nombreux que d'être moins nombreux et en sous-effectif?
Alors, ça, tout à fait, ça, je vous l'accorde, que vaut mieux être plus nombreux qu'en sous-effectif. Ça, c'est clair et net. Mais de là à ouvrir la garde d'enfants sans diplôme, sans formation, enfin laisser notre enfant à une personne qu'on ne connaît pas et on ne sait pas du coup ce qu'elle a pu faire dans la vie, on ne connaît pas son parcours, ouais. C'est quand même c'est dérangeant, quoi.
On entend,
c'est une personne, hein, une personne seulement, non diplômée par crèche, faut le rappeler.
Par crèche, c'est plafonné à une personne.
Ouais. D'accord, bon, après ça...
Ou deux, suivant les détails de structure.
Okay. Alors, je vais justement, j'allais vous donner la parole, Cyril Godefroy. Merci beaucoup, Lucas, et on a bien entendu votre inquiétude qui est partagée par de nombreux parents ce matin. Cyril Godefroy, est-ce que vous, alors vous dites une personne maximum par équipe, voire deux, vous représentez le Syndicat National des Professionnels de la Petite Enfance, vous en dites quoi? Est-ce que c'est un moyen de combler ces très nombreux postes? Il y a quasiment 10 000 postes à pourvoir dans les crèches aujourd'hui, ce qui va empêcher des places d'ouvrir.
Alors déjà, la première chose, je vais vous reprendre, c'est pas les crèches qui disent qu'il n'y a pas le choix que de prendre des personnes non diplômées, c'est le gouvernement qui propose cette solution-là. Les crèches, elles préféreront largement les professionnels, les équipes de direction et les gestionnaires avoir du personnel diplômé pour pouvoir s'occuper des enfants. Pourquoi? Parce que tout simplement, on est déjà dans une situation de pénurie avérée. Hein. La CAF a fait les retours en les 10 000 postes dont vous évoquez. Mais en fait, il va falloir... bien se rendre compte que s'occuper des enfants des autres, c'est un vrai métier, et être auprès d'enfants, de groupes d'enfants, comme des structures en France qui peuvent aller de 10 à plus de 80 places. Quand vous êtes dans un groupe de bébés de 10, 15 enfants, vous êtes 3, 4 professionnels pour vous occuper de 15 bébés de moins d'un an, je suis pas sûr que tout le monde soit prêt à faire ça du jour au lendemain sans qualification.
Ouais. Mais ça veut dire ce que vous dites, les crèches, préfèrent recruter des gens diplômés. On peut le comprendre, mais ça veut dire qu'elles vont pas se saisir de cet arrêté, vous pensez qu'elles ne vont pas suivre?
En tout cas, c'est notre choix en tant que syndicat de ne pas rentrer dans cette situation-là, parce que du coup, c'est complètement dévaloriser tous les professionnels qui sont déjà formés, qui sont déjà sur le terrain, qui ont entre 1 et 3, voire 4 ans de formation autour de la petite enfance et qui, au final, seront épaulés par des collègues qui auront appris sur le tas, qu'il va falloir former et qui, au bout de 120 heures de présence dans la structure, en début de contrat, vont pouvoir être en autonomie avec un groupe d'enfants.
Oui, mais s'il n'y a pas le choix, qu'est-ce qu'on fait? On ferme la crèche ou alors on réduit les horaires d'ouverture?
Ah bah oui, c'est la question qu'il va falloir poser clairement au gouvernement, parce que du coup, c'est le gouvernement quand même qui n'a rien fait depuis des années, alors que du coup, les statistiques sont là avec les départs en retraite. La situation s'est peut-être accélérée avec la crise sanitaire, parce que du coup, c'était un secteur qui est très dévalorisé au niveau salarial et qui est très pénible. Porter des bébés toute la journée, avec des horaires, parce qu'il faut être là avant que les parents travaillent et après que les parents travaillent pour pouvoir les accueillir. Je veux dire, il va peut-être falloir un moment ou un autre aussi revaloriser correctement ces métiers de la petite enfance.
Ouais, et quasiment la moitié des crèches collectives qui déclarent subir un manque de personnel. On est également avec Cédric au 32-16 ce matin. Bonjour Cédric.
Bonjour Sébastien.
Vous avez vous-même des enfants, Cédric?
Oui, 13 et 5 ans et demi.
13 et 5 ans et demi, donc ils sont plus trop en âge d'aller à la crèche, mais ils y allaient quand ils étaient plus petits.
5 ans et demi, non, il a eu la chance d'avoir une nounou fabuleuse il l'a encore jusqu'à ses 6 ans. Donc on a encore cette chance-là, mais après oui, il va falloir le mettre dans les centres de loisirs.
Comment vous voyez les choses? ça vous inquiète aussi?
Alors, je suis époux d'une auxiliaire de puriculture.
D'accord.
Donc
vous connaissez bien ce monde-là.
Qui a un BEP sanitaire et social, qui a une formation d'auxiliaire de puriculture, donc qui a passé 4 ans à étudier. Pour elle, le monde des crèches, c'est un calvaire et c'est le domaine dans lequel elle ne veut pas s'orienter. Donc même pour des gens formés, vous dire que les crèches, c'est pas leur domaine. C'est quand même relativement, excusez-moi du terme, mais flippant.
Pour elle, c'est exclu. Il est hors de question d'aller travailler dans une crèche. Pourquoi? À cause des conditions de travail, à cause du salaire?
Le salaire, conditions de travail, le respect en général. Aujourd'hui, elle est également aide-soignante. On retrouve les mêmes conditions dans les crèches que l'on retrouve dans les EHPAD. Ça vous parle?
Et donc plus personne, même les gens formés, même les gens qui aiment les enfants ne veulent pas aller travailler dans les crèches.
On veut intéresser des gens au métier. Augmentons les salaires, dans un premier temps. Dans une crèche, c'est quoi, 1600 euros brut, le salaire moyen, certaines, quelque chose comme ça. En fonction publique, une auxiliaire de puériculture, c'est 1700 euros. Déjà, on a un décalage à ce niveau-là. Tout à l'heure, vous parliez des assistantes maternelles, mais les assistantes maternelles, elles ont des agréments. Elles sont contrôlées par les PMI. À minima, si vous voulez embaucher quelqu'un dans une crèche, au moins proposez-lui un cadre de formation d'un CAP petite enfance. C'est une formation diplômante. Et en plus, elle sera formée à la mise en place d'activités pour les enfants selon les âges.
Très urgent de rendre ces métiers, en tout cas, plus attractifs. Cyril Godefroy, vous êtes d'accord? Il va falloir faire un effort, mieux rémunérer, mieux former pour rendre ces métiers plus attractifs?
Totalement. Pour le moment, Jean-Christophe Comte, le ministre des Solidarités, a annoncé un plan de communication pour valoriser les métiers de la petite enfance. Avant de faire un plan de communication, il va peut-être s'agir de pouvoir réellement valoriser ces métiers-là, qui sont en forte attente de pouvoir être mieux reconnus au niveau salarial. Ce que l'auditeur précédent a expliqué est bien le cas, voire dans le secteur privé, les collègues qui sont auprès des enfants sont souvent payés cosmiques. Donc du coup, forcément, avec le caractère pénible du métier qu'il y a, ce sont des conditions qui sont plus intéressantes. Les gens quittent le secteur et les gens ne se projettent pas pour aller dans ce secteur-là, pour faire ce métier-là.
Ah, le problème, c'est qu'il faut du temps pour les former. Donc aussi, si on veut des nouveaux personnels, ça ne va pas être tout de suite. Donc il y a une urgence, là, clairement.
Et oui, mais du coup, il faut renvoyer la responsabilité au niveau du gouvernement. Hein, je veux dire, la situation, elle n'est pas... Elle n'est pas inconnue de la part du gouvernement. En 2016, il y a un rapport qui a été remis au gouvernement de l'époque qui peut orienter déjà les problèmes de pénurie. Rien n'a été mis en place entre 2016 et maintenant pour y faire face. Donc, ce n'est pas forcément aux professionnels et aux gestionnaires de devoir maintenant se débrouiller et faire du bricolage parce qu'on leur donne une possibilité avec un arrêté de faire du bricolage sur le terrain. Il fallait y penser aussi avant.
Et on se retrouve effectivement au pied du mur. Merci beaucoup Cyril Godefroy pour votre éclairage ce matin et d'être venu dialoguer avec les auditeurs d'RMC. Je rappelle que vous êtes le co-secrétaire général du syndicat national des professionnels de la petite enfance. Et je remercie Lucas et Cédric pour leur témoignage ce matin au 32-16. Il est 8h24 sur RMC.
RMC s'engage pour vous.
RMC s'engage pour vous, RMC vous aide et nous rouvrons les dossiers tout au long de l'été. On revient sur les histoires qui ont marqué la saison avec vous, Johanna Chabas. Bonjour Johanna.
Bonjour.
Ce matin, vous nous reparlez de la petite Swan. Swan, 5 ans, atteinte d'autisme. Ses parents, vous avez écrit à l'adresse mail qui est toujours ouverte d'ailleurs, rmcpourvous@rmc.fr.
Oui, Swan est née prématurément et elle souffre de troubles de l'autisme. À l'école, elle a donc besoin d'un AESH, un accompagnant d'élèves en situation de handicap, quelqu'un qui est là en fait tous les jours avec elle à l'école pour l'aider à se concentrer, qu'elle soit bien en classe. Sauf que quand sa famille nous écrit en septembre, aucun AESH n'est disponible à cause du manque de personnel. Swan a dû faire sa rentrée en grande section seule et pourtant, selon ses parents, un accompagnant est absolument nécessaire pour la petite.
Swan a vraiment besoin que quelqu'un soit toujours là pour la ramener à la réalité en fait, parce que sinon elle se met un peu dans son monde. Elle s'invente plein de personnages et puis elle a de gros troubles sensoriels, donc elle supporte pas le bruit, la lumière. Du coup, elle erre dans la classe et du coup, les apprentissages ne se font pas. Ça nous inquiète beaucoup parce que on se sent démunis, on peut rien faire. C'est devenu très compliqué pour elle d'aller à l'école.
Alors Johanna, est-ce qu'on a des nouvelles? Est-ce qu'une solution a été trouvée?
Eh bien oui, quelques jours après notre reportage, comme l'Académie nous l'avait promis, une AESH a été trouvée. C'est Fabienne, elle connaissait déjà Swan. Mais bon, cette année, elle était seulement à temps partiel, 6 heures par semaine avec la petite fille. Mais ça reste un soulagement pour son père Pascal.
Ça marche entre ma fille et Fabienne et puis c'est tout ce qui compte. Elles ont réussi à créer une relation de confiance toutes les deux, même avec nous, vraiment l'échange se fait super bien. Donc on va retenir le positif, c'est-à-dire que même si Fabienne n'était pas présente à temps complet, elle était là au moins 2 heures par matinée. On est soulagé parce que sinon, en fait, on partait sur une année scolaire où Swan n'aurait pas été accompagnée. Ça aurait été une année presque perdue, quoi.
Et pour la rentrée qui arrive, on sait comment ça va se passer pour elle?
Eh bien, étant donné que Swan n'a eu une AESH qu'à mi-temps, cette année, elle n'a pas progressé autant qu'elle aurait pu. Ses parents ont donc demandé à ce qu'elle reste en grande section. Et la bonne nouvelle, c'est qu'à la rentrée, Fabienne deviendra l'AESH officielle de Swan. Elle sera donc avec elle à temps plein et la suivra tout le long de sa scolarité.
On était contents de savoir qu'elle aurait une AESH l'année prochaine et on était encore plus ravi de savoir que ce serait Fabienne, parce qu'il n'y a pas besoin de recréer un relationnel, là c'est déjà fait. Swan, elle va débuter l'année prochaine avec une figure qu'elle connaît, donc ça va aussi faciliter les choses. Pour le primaire, on sait que normalement Fabienne sera là. Pour Swan, c'est un point d'attachement, donc ça facilite les choses pour elle.
Mais Swan est loin d'être un cas isolé. Le syndicat Sud Éducation estime que 40% des élèves qui devraient avoir un AESH n'en a pas à temps complet. Le gouvernement a annoncé cet été le recrutement de 4000 accompagnants à la rentrée, mais ce n'est pas suffisant selon le syndicat, qui demande notamment une revalorisation salariale pour rendre ce métier plus attractif.
Voilà, toujours un sujet très difficile hein, de la scolarisation des enfants handicapés, notamment des enfants autistes. Merci beaucoup Johanna Chabas. C'est des bonnes nouvelles donc pour cette petite fille de 5 ans. Vous continuez à nous écrire. Vous avez besoin d'aide. Vous nous écrivez RMC pour vous @rmc.fr. Et l'équipe RMC, évidemment, lit tous vos messages. Il est 8h28. Dans un instant, la météo et le journal de 8h30.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Il est 8h30 sur RMC et sur RMC Story. Tout de suite, l'info avec Alexandra Sirgan. Rebonjour Alexandre.
Bonjour Sébastien, bonjour à toutes et à tous. Hommage national rendu aujourd'hui pour l'attentat de la rue des Rosiers à Paris. 40 ans après les faits, toujours aucun procès en vue. À partir de demain, certaines pharmacies vont vacciner contre la variole du singe. L'expérimentation va durer 2 semaines. Et puis elle a marqué l'écran avec sa belle voix et sa veste en cuir noir. La star de Grease, Olivia Newton-John, est décédée.
Une commémoration très attendue par les proches des victimes.
Oui, celle de l'attentat de la rue des Rosiers à Paris. Attentat terroriste d'un restaurant juif qui a fait 6 morts et 22 blessés. C'était en 1982. Le premier hommage national sera rendu aujourd'hui à la mi-journée sur les lieux du drame. 40 ans après, toujours aucun procès en vue. Le seul suspect aux mains de la justice française clame toujours son innocence. Où en est la justice dans cette affaire? On fait le point avec Maxime Lévy.
4 personnes sont aujourd'hui identifiées, soupçonnées par la justice française d'avoir participé à l'attentat. Mais seule l'une d'entre elles est en détention provisoire en France. Extradée de Norvège en 2020, le suspect clame son innocence. Il reste donc 3 suspects connus, 2 en Jordanie et 1 à Ramallah, en territoire palestinien. Cela fait donc maintenant 7 ans que la France ne parvient pas à les extrader. Une impuissance qui insupporte Youhan Taïeb, représentant de victimes de l'attentat de la rue des Rosiers.
La complicité passive des États en question, ce n'est plus possible. La Norvège a démontré que quand on voulait aider dans la lutte contre le terrorisme, on pouvait le faire. Moi, je considère ces pays-là comme des refuges de terroristes.
Si tous les suspects ne seront pas là, Youhan Taïeb se veut confiant sur la tenue d'un procès, même si encore aujourd'hui, l'enquête n'a pas su déterminer précisément combien de terroristes ont participé à l'attentat.
Maxime Lévy du service police-justice de RMC. Dès demain, certaines pharmacies pourront vacciner contre la variole du singe. C'est pour le moment une expérimentation de 2 semaines lancée par le ministère de la Santé. Elle concerne 5 officines situées en Île-de-France, en région PACA et dans les Hauts-de-France. Pour être bien conservé, le vaccin anti-variole doit être maintenu à très basse température. Un défi logistique de taille pour l'acheminer à grande échelle, selon Philippe Bessé, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques.
Le vaccin contre la variole du singe est conservé à moins 80 degrés. Une fois qu'il est décongelé, sa durée de vie est de 2 semaines. Ça inclut le transport, ça inclut les prises de rendez-vous et la vaccination elle-même. Donc je ne suis pas sûr qu'on pourra délivrer le vaccin à l'ensemble des officines françaises. Donc on verra à l'issue de l'expérimentation. Le ministère de la Santé doit faire ses comptes pour savoir de combien de lieux de vaccination il a besoin pour vacciner au mieux les personnes éligibles.
En Aveyron, l'incendie n'est toujours pas fixé. Les pompiers sont encore mobilisés. 3 canadairs ont été déployés ce matin. 700 hectares sont partis en fumée depuis hier. Selon la préfecture de l'Aveyron, 2000 personnes ont été évacuées. 1200 ont été mises à l'abri. Quatre jours après avoir renversé deux enfants lors d'un rodéo urbain à Pontoise, le suspect, un jeune homme de 18 ans, a été mis en examen et écroué. Le pronostic vital de l'une des deux victimes, une fillette de 7 ans, reste engagé. Un autre accident a eu lieu ce week-end en Gironde avec deux adolescents blessés. Face à ces rodéos qui se multiplient, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, assure vouloir intensifier les contrôles de police. Il a annoncé 10 000 contrôles rien que pour ce mois d'août. Mais les élus locaux optent parfois pour des stratégies différentes. Ambre Le Poivre.
10 000 contrôles d'ici la fin du mois, l'annonce du ministre de l'Intérieur ne convainc pas François Daoust, élu à Pontoise, où deux enfants ont été grièvement blessés par une motocross.
Est-ce qu'il aura les effectifs qui permettront de répondre à cette densification des contrôles? Les interventions ne se font pas à chaud, on ne va pas créer un suraccident. Donc 10 000 contrôles, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir 10 000 interpellations et 10 000 condamnations.
Dans le Nord, la commune d'Halluin n'a pas attendu l'intensification des contrôles. Le maire a interdit la circulation des quads sous peine d'une amende de 150 euros et ça marche, selon l'adjoint au maire Jean-Emmanuel Agnuret.
L'utilisation s'est arrêtée et la présence de notre police municipale ont permis justement de baisser sensiblement ce fléau.
Si certains renforcent la répression, d'autres optent plutôt pour la prévention. C'est le cas des mairies de Vaux-en-Velin et de Lyon qui ont fait appel à Mehdi Ben Safi, président de l'association Synergie Family.
Le premier objectif, c'est de venir casser cette culture. Les passionnés de moto qu'on trouvait dans le cadre de rodéo urbain leur proposaient d'aller sur des circuits homologués.
La peine pour un rodéo urbain peut aller jusqu'à 5 ans de prison et Gérald Darmanin souhaite encore renforcer la répression.
La résidence de Donald Trump perquisitionnée cette nuit, c'est l'ancien président américain qui l'a lui-même annoncé, une perquisition de sa célèbre propriété de Mar-a-Lago en Floride menée par le FBI. Il accuse les démocrates de vouloir l'empêcher de se présenter à l'élection présidentielle de 2024. Vous avez peut-être eu une panne cette nuit en utilisant Google. Des dizaines de milliers d'utilisateurs ont signalé des problèmes, notamment sur Google Maps. Le problème dû à une mise à jour du logiciel. La panne a depuis été réglée par le géant américain. L'AS Monaco se déplace sur la pelouse du PSV Eindhoven ce soir en match retour du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Les deux équipes s'étaient quittées sur le score de 1 partout la semaine dernière lors du match aller. L'entraîneur monégasque Philippe Clément assure que ses joueurs sont déterminés à se qualifier.
Nous n'avons pas besoin plus de confiance. La confiance est là, mais aussi le réalisme. C'est une bonne équipe. PSV, ils ont montré, ils ont une force offensive très grande, mais nous sommes aussi conscients de nos qualités. Les joueurs, ils ont travaillé vraiment fort les dernières semaines, les derniers mois pour être prêts. Nous sommes très déterminés pour nous qualifier.
Le match est à suivre à 20h30 ce soir en direct et en intégralité sur RMC. Et puis elle a marqué l'écran avec sa veste en cuir et ses cheveux blonds laqués. La star de Grease, Olivia Newton-John, est décédée d'un cancer à l'âge de 73 ans. John Travolta, son acolyte dans la comédie musicale culte, a aussitôt réagi dans un communiqué. « Ma chère Olivia, tu as rendu nos vies meilleures », écrit l'acteur. On revient sur son parcours avec Romain Cluzel.
Une veste en cuir et quelques pas de rock, la consécration arrive en 1978 pour Olivia Newton-John avec la comédie musicale Grease. Son duo avec John Travolta attire plus de 5 millions de personnes dans les cinémas français. Née en Angleterre, elle grandit en Australie. Elle commence sa carrière dans les années 60 et participe à l'Eurovision pour la Grande-Bretagne en 1974. Elle finit quatrième derrière le groupe suédois ABBA qui remporte le concours. La reine Elisabeth II la décore de l'ordre de l'Empire britannique en 1979. Et deux ans plus tard, elle connaît son plus grand succès en solo avec le titre « Physical ». Olivia Newton-John décède d'un cancer du sein. Elle contracte la maladie une première fois en 1992 et s'engage dans la lutte contre le cancer. Elle fait ensuite deux rechutes, la première en 2013 et la seconde en 2017.
Voilà le récit musical de Romain Cluzel.
Et puis, c'était un petit peu ce matin, cette musique. C'est vrai qu'on redécouvre sa carrière. On ne savait pas qu'elle avait fait autant de chansons. Hommage donc à Olivia Newton-John ce matin.
Et ça donne envie de regarder Grease.
Évidemment. Vous l'avez regardé?
Oui, plein de fois. Moi, je suis une grande fan de Grease. J'ai même vu la comédie musicale en spectacle à Paris.
Ah, grande fan. Carrément.
Voilà, ouais.
Merci beaucoup, Alexandra Sirgan, pour le journal.